Dans le cadre de leur émission Les Chemins de l'Histoire, Daniel et Jean Fleury vous présentent une série de 5 émissions inspirées par l'actualité et qui s'intitulera « Protestantisme et laïcité ». Protestantisme et laïcité, aujourd'hui, vers la liberté de conscience. Nous avons vu la dernière fois que les Lumières ont fait émerger les notions de pluralisme et de tolérance. Tolérance, qui pour Paul Rabault, veut davantage dire indifférence que liberté de conscience réelle.
Dès janvier 1786, voilà Rabault Saint-Étienne nommé délégué général de l'Église et invité à Paris par Lafayette pour mettre au point un projet d'édit sur l'état civil des protestants. Passant par Bordeaux, il rédige avec Olivier Desmond un argumentaire pour des cultes publics. À Paris, où son frère Rabault Pommier, pasteur à Montpellier, l'a rejoint, les deux frères adhèrent à la loge des 9 sœurs, celle de Voltaire, Franklin et Mirabeau. Lafayette le présente au duc d'Orléans du Grand Orient également et à Malesherbes qui, entré au Conseil d'en haut en 1787, propose le 17 novembre un traité de tolérance. Protestants et juifs obtiennent un état civil qui leur permet de se marier hors de l'Église catholique, de payer l'impôt et de voter pour les États généraux.
La même année, l'amendement numéro 1 à la Constitution des États-Unis déclarait « Le Congrès ne fera aucune loi qui touche l'établissement ou interdise le libre exercice d'une religion, ni qui restreigne la liberté de parole ou de presse, ou le droit qu'a un peuple de s'assembler paisiblement. »
Élu député du Thiers à Nîmes en janvier 1789, Saint-Étienne rédige avec son père un modèle de cahier de doléances diffusé dans la région pour renforcer l'édit de 1787. Le 4 août, l'Assemblée constituante décide d'une déclaration des droits de l'homme et du citoyen, reprenant la notion de droit naturel de celle des USA. Membre du comité de constitution, Saint-Étienne précise :
la loi doit donc viser à maintenir la vie, la liberté, l'honneur de la personne, la propriété de chacun, dans une protection générale, juste, uniforme et commune. Le roi, inviolable et sacré comme la loi, est l'organe de la loi, car il en a reçu la mission de la nation souveraine. Formulant l'article 10 sur la liberté religieuse, le marquis de Castellane, l'évêque Gobel et Saint-Étienne doivent en retirer l'autorisation de liberté des cultes. D'où le beau discours de Saint-Étienne du 23 août. Ce n'est pas la tolérance qu'il demande, c'est la liberté. La tolérance, je propose qu'il soit proscrit ce nom injuste qui nous présente que comme des citoyens dignes de pitié, comme des coupables auxquels on pardonne.
Grâce à Mirabeau, l'article 10 est finalement voté dans la nuit du 30 septembre à 4 heures du matin. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Si les religions sont ramenées au rang d'opinion, liberté de conscience et pluralisme religieux sont garantis par le roi, comme sous l'édit de Nantes, avec exercice privé du culte. Suit l'article 11. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. cette notion d'abus de liberté est facilement contestable, et elle le sera.
Puis arrive une mise sous contrôle des Églises. Le 2 novembre 1789, Talleyrand, évêque d'Autun, propose la mise à disposition de la nation des biens du clergé pour éteindre la dette publique, vente ou garantie aux assignats. Un comité ecclésiastique gérera le financement des cultes. Tandis que le 13 juin 1790, les bagarres religieuses de Nîmes font 400 morts, la Constituante adopte le 12 juillet une constitution civile du clergé catholique qui abroge le concordat de Bologne. Prêtres et évêques deviennent fonctionnaires de l'État, payés et formés par lui, et devant prêter un serment d'acceptation. Le pape écrit au roi : « Si vous approuvez ces décrets, vous précipiterez votre royaume dans le schisme et peut-être dans une guerre civile de religion. »
Les fêtes de la Fédération du 14 juillet se déroulent sans incident, avec deux autels, un pour une messe, l'autre pour la célébration de la nation avec serment, ce qui fait penser aux deux règnes de Calvin. Le roi ratifie finalement la constitution civile du clergé le 24 août. Le catholicisme gallican devient religion de l'État qui définit des diocèses départementaux et des paroisses. Il y aura un curé pour 6000 fidèles. Si les règles internes sont maintenues, comme le célibat, les héritages, chapitres, congrégations, etc., sont éteints et supprimés sans qu'il puisse jamais en être établi de semblable. Et le pape n'intervient plus que sur la doctrine. Les curés élus localement par les citoyens, catholiques ou non, sont autorisés à rompre leurs vœux et deviennent des citoyens normaux pouvant être députés de la nation, mais pas officiers municipaux ou départementaux. 52% du clergé français refuse de jurer, d'où un schisme entre une église ultramontaine réfractaire et l'église constitutionnelle gallicane.
Protestants et juifs ne sont pas concernés. Élus en octobre 1791, mais entraînés dans la guerre dès avril 92, l'Assemblée législative s'occupe peu de laïcité. Tout juste les registres d'état civil, la reconnaissance du divorce, et par le projet de code pénal de Le Pelletier de Saint-Fargeau, le retrait des crimes imaginaires, tels que blasphème, hérésie, lèse-majesté divine, sortilège ou magie. Jugeant nécessaire de séparer de la morale les principes de toute religion et de n'admettre dans l'instruction publique l'enseignement d'aucun culte religieux, Condorcet tente, en vain, de laïciser l'école.
Suite à la trahison du roi, une convention nationale est élue au suffrage universel masculin. Y siègent, avec les Girondins, Rabot-Saint-Étienne pour l'Aube et Rabot-Pommier pour le Gard. L'un vote le bannissement du roi, l'autre sa mort. La République est proclamée le 22 septembre 92 et des guillotines envoyées en province en décembre. En mars 93, soulèvement de l'Ouest royaliste catholique qui sera réprimé dans le sang jusqu'en 1796.
En juin, la Convention jacobine installe un système de protection sociale mais sans réel financement et surtout condamne 29 Girondins, dont Saint-Étienne, réfugié à Versailles avec son frère. En juillet, Robespierre décrète la terreur et les Girondins en fuite sont déclarés traîtres à la patrie. Cachés à Paris chez des amis nîmois, Saint-Étienne sera découvert le 5 décembre et guillotiné. Thank you.
nous arrivons à la suppression des églises et cultes laïques. Des mesures anticléricales se précisent. De nombreux prêtres, pasteurs ou rabbins abdiquent officiellement leur charge. 98 pasteurs sur 215 en France. D'autres deviennent clandestins. En septembre 1993, on laïcise le temps. Le calendrier de Biot-Varenne supprime les fêtes religieuses. Noël devient même le jour du chien.
En novembre, les hébertistes imposent le culte de la raison qui regroupe tous les autres, qui reste pourtant toléré. Robespierre combat cet athéisme militant pour réunir les Français autour d'un culte commun émanant de l'État, le culte de l'être suprême, décrété le 18 Floréal en 2 mai 1994. Un ensemble de fêtes destinées, à la demande du peuple, dit-il, à lui faire prendre conscience qu'il est souverain dans son pays, et qui remplace donc celui de la raison dans les cathédrales, chaque décadie, avec hymne et orgue. Républicains sincères, beaucoup de protestants s'en accommodent.
En juin, la théocratie républicaine interdit les autres cultes. Les prêtres, même constitutionnels, et les pasteurs doivent s'éloigner à 20 lieues de leur église sous 8 jours. À Nîmes, Paul Rabaut refuse et est arrêté avec des membres du consistoire le 25 juillet. Beaucoup de prêtres seront exécutés.
Et 2 jours plus tard, c'est Thermidor. On abandonne le culte à l'être suprême. Libéré le 12 septembre, Paul Rabaut meurt le 25. L'État, maintenant, s'oriente vers la neutralité d'une première séparation.
Le 18 septembre 1994, par économie, Cambon décrète la suppression du budget de l'Église, annulant implicitement la constitution civile du clergé. L'abbé Grégoire et l'avocat protestant Boissy d'Anglas rédigent un rapport préliminaire au décret de séparation.
Mais enfin, les pratiques religieuses ne sont pas des délits envers la société. Surveillez donc ce que vous pouvez empêcher et régulariser ce que vous ne pouvez défendre. Gardez-vous bien de faire pratiquer avec enthousiasme dans des souterrains ce qui se pratiquerait avec indifférence, avec ennui même, dans une maison privée.
La Convention vote le 21 février 1795 le décret sur la liberté des cultes. Les religions autorisées sont confinées au domaine privé de l'État. Et l'État est laïcisé. Article 1. L'exercice d'aucun culte ne peut être troublé. Article 2. La République n'en salarie aucun. Article 3. Elle ne fournit aucun local, ni pour l'exercice des cultes, ni pour le logement des ministres. Article 4. Les cérémonies et tout culte sont interdites hors de l'enceinte choisie pour leur service.
Article 5. La loi ne reconnaît aucun ministre du culte. Nul ne peut paraître en public avec les habits, ornements ou costumes affectés à des cérémonies religieuses. Article 6. Tout rassemblement de citoyens, pour l'exercice d'un culte quelconque, est soumis à la surveillance des autorités constituées. Et cette surveillance se renferme dans des mesures de police et de sûreté publique. Article 7. Aucun signe particulier à un culte ne peut être placé dans un lieu public, ni extérieurement, de quelque manière que ce soit. Aucune inscription ne peut désigner le lieu qui lui est affecté. Aucune proclamation ni convocation publique ne peut être faite pour y inviter les citoyens.
Le clergé catholique réfute cette séparation. Par contre, ces cultes purement privés, sans prosélytisme extérieur, conviennent aux protestants comme aux juifs. L'idéal républicain est bien ancré dans leur mentalité et en cohérence avec leur engagement spirituel. Les constitutions de l'an 3, donc le directoire 1795, et de l'an 8, le consulat 1799, maintiennent cette séparation des églises et de l'État.
Et puis l'Église va être mise sous tutelle par le Concordat. le 26 Messidor en 9, 15 juillet 1801, Pie VII, qui vient de récupérer les États pontificaux grâce à Bonaparte, accepte de signer le concordat préparé par Jean Portalis et Talleyrand pour abroger la loi de séparation. Compromis de circonstances et de principes que le pape doit imposer à une curie hostile. Et Bonaparte a un monde politique plutôt anticlérical. Proche de la constitution civile du clergé, ce concordat est moins favorable pour Rome que celui de Bologne.
Le gouvernement de la République française reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des citoyens français. Elle n'est plus religion d'État et le pape demande aux anciens évêques, jureurs comme réfractaires, de démissionner. Curés et évêques doivent prêter serment au gouvernement qui les instruit, les nomme et les paye. Ils sont chargés d'encadrer moralement la société. Si dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose au préjudice de l'État, je le ferai savoir au gouvernement.
Dans les articles organiques du 8 avril 1802, beaucoup plus précis et refusés par Rome, diocèses et paroisses sont réorganisés sur un modèle quasi militaire. Toujours un ministre pour 6000 fidèles et certains évêchés supprimés. Aucune décision doctrinale ou dogmatique ne pourra être publiée et enseignée sans l'autorisation du gouvernement. Le port des tenues cléricales sont interdites hors des cultes. Communes ou départements restent propriétaires des biens nationaux immobiliers, mobiliers, alloués aux établissements publics du culte et gérés par le conseil paroissial composé de clercs et de laïcs. De plus, l'État garantit la liberté des religions reconnues, catholiques, réformées, luthériennes, puis juives en 1806.
On est loin d'un État laïque avec cette croyance obligatoire et seuls quatre cultes autorisés.